Francis Patindé, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous pensez du discours très offensif du Premier ministre malien samedi dernier, accusant le gouvernement français d'être une junte au service de l'obscurantisme et le président Mohamed Bazoum de ne pas être nigérien?
Bon, c'est vrai qu'on n'est pas habitué à ce type de discours à une tribune des Nations Unies. Il y a eu quelques cas précédents, un président iranien, Hugo Chavez, Castro avec les longs discours, Kadhafi également. Et donc, ça a beaucoup surpris. Moi, je voudrais juste parler de Bazoum, Mohamed Bazoum. Moi, je l'ai connu dans les années 1990. Il a toujours été impliqué dans les affaires de son pays, le Niger, et il n'était venu à l'esprit d'aucun d'entre nous qui puisse être étranger. Bazoum a peut-être des défauts, mais Bazoum est nigérien. Et je trouve un peu maladroit de dire aujourd'hui qu'il serait étranger. Et de toute façon, s'il est étranger, c'est une affaire interne au Niger. Ce n'est pas une affaire dont on doit discuter hors du Niger.
Alors, à Bamako, la presse proche du pouvoir salue les vérités crues prononcées par le Premier ministre, son courage, son éloquence. L'ancien Premier ministre Moussa Mara affirme au contraire que cette posture agressive est contre-productive et déplore le ton belliqueux. Qu'est-ce que vous en pensez vous-même?
Moi, je trouve que il aurait pu dire la même chose tout en gardant un langage diplomatique, un langage enrobé. S'il a des choses à reprocher, par exemple, au chef d'État d'Afrique de l'Ouest, à la France, mais également au secrétaire général des Nations Unies. Bon, il aurait pu le faire soit dans un cadre bilatéral, soit hors des yeux du public, hors du micro de l'Assemblée générale des Nations Unies.
L'ivresse de la junte malienne lui fait oublier le sens du protocole et de la diplomatie, dit le ministre nigérien Youssouf Mohamed El Mouktar. Est-ce qu'on peut parler d'ivresse ?
Je pense que toute forme de populisme a la vie courte. Donc je pense que si les militaires au pouvoir à Bamako veulent aller loin, veulent maintenir l'équilibre de leur pays, je pense qu'il faut être plus enrobé, faire recours plus à la diplomatie, d'autant plus qu'ils ont un excellent diplomate au ministère des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, que moi j'ai connu aux Nations Unies, qui est quelqu'un de très très intelligent, d'assez enrobé, même si parfois on peut être surpris par certains de ses discours, de ses propos récents.
Est-ce que vous y voyez une influence de Moscou?
Alors, moi, je ne crois pas que Moscou intervienne directement dans la diplomatie, dans les moindres faits et gestes du gouvernement malien. Il y a un problème de fond entre la France, par exemple, et les pays africains. Et ce problème existait avant le retour des Russes en Afrique. Parce qu'il faut parler de retour. Les Russes étaient en Afrique avant, au temps des révolutions. Et donc, il y a une lame de fond, il y a un problème de fond dont il faudra discuter de façon sereine pour relancer la relation entre la France et les pays africains francophones. Parce que tant qu'on n'adresse pas vraiment les vrais problèmes de fond, on passe à côté. Donc, mettre tout ce qui se passe aujourd'hui dans quelques pays africains comme le Mali, sur le compte des Russes et de quelques soldats perdus russes qui agiraient en Centrafrique et au Mali, à mon avis, c'est mal poser le problème.
Et voulez-vous dire que la réaction de Paris au propos de Bamako n'est pas toujours pertinente?
C'est pas la réaction, c'est de se dire, bon tiens, il y a un problème, fouillons. Il ne vous aura pas échappé que le pouvoir malien, il y a beaucoup de jeunes en Afrique qui le soutiennent, qui descendraient dans la rue. Vous avez vu l'accueil également du Premier ministre intérimaire, donc à son retour des Nations Unies à Bamako, tout n'est pas manipulation et tout n'est pas serein non plus du côté de Bamako.
Quelques jours après ce discours à l'ONU, le gouvernement malien accepte quand même de recevoir à Bamako une délégation de 3 chefs d'État de la CEDEAO qui demande la libération des 46 soldats ivoiriens arrêtés le 10 juillet dernier. N'est-ce pas contradictoire?
Non, cette visite est un bon indicateur, tout comme l'était la libération au début du mois de 3 femmes soldates ivoiriennes. Je trouve que ça va dans le bon sens. Cette mission peut contribuer à apaiser les esprits. Après le discours enflammé du Premier ministre intérimaire à New York, je vous fais remarquer qu'il y a 2 semaines, les autorités maliennes récusaient toute initiative de la communauté régionale. Aujourd'hui, elles l'acceptent à 2 jours près, une visite décidée à New York par la CEDEAO. Et le choix des émissaires ne doit rien au hasard pour ménager les susceptibilités des Maliens. Le président togolais, Faure Gnassingbé, est sans doute le seul dirigeant de la région à avoir l'oreille et la confiance du colonel Assimi Goïta. Et Faure Gnassingbé passe également pour être très proche du président ivoirien Alassane Ouattara. Donc ça peut servir. Et dans les différents communiqués des Maliens, vous noterez qu'ils insistent sur le fait que la République togolaise est l'unique cadre de règlement du dossier des 49 mercenaires ivoiriens. C'est à Lomé que les protagonistes de cette affaire se sont retrouvés en juillet et c'est également via Lomé que les trois femmes militaires libérées sont rentrées à Abidjan. J'ajoute que le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussin, est une vieille relation du colonel Assimi, bien avant que ce dernier n'accède au pouvoir. Si ça peut contribuer à faire avancer les choses, pourquoi pas?
Donc vous pensez que cette mission a une petite chance de réussir, mais pour autant, le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, affirme que cette affaire des soldats ivoiriens n'est pas un problème de la CDAO, c'est entre le Mali et la Côte d'Ivoire.
Absolument, c'est la ligne des Maliens. Mais je remarque seulement qu'ils ont accepté une décision qui a été prise à New York, à une réunion à laquelle ils ne participaient pas. Donc, je pense que la CDAO est rentrée subrepticement dans le dossier et que la visite des trois chefs d'État à Bamako s'inscrit dans ce cadre.
Jusqu'à présent, le président ivoirien Alassane Ouattara s'est gardé de prendre des mesures de représailles contre le Mali. Que peut-il décider dans l'avenir?
C'est sûr que la Côte d'Ivoire est une puissance économique régionale et il y a une forte communauté malienne en Côte d'Ivoire. Il y a également le fait que la Côte d'Ivoire fournisse de l'électricité au Mali et la Côte d'Ivoire est au cœur du dispositif monétaire ouest-africain également. Donc, il y a des moyens de rétorsion, les représailles existent dans les mains de la Côte d'Ivoire, mais j'espère qu'on n'ira pas jusque-là, puisque la Côte d'Ivoire et le Mali, c'est vraiment ces deux pays qui se confondent. Je pense que la diplomatie retrouvera ses droits. Ça permettra au Mali de revenir dans la communauté régionale et la diplomatie devrait triompher dans cette affaire.
Le retour des civils au pouvoir à Bamako en 2024, est-ce que vous y croyez?
À mon avis, on a pris beaucoup de retard dans des palabres, dans des querelles byzantines. Donc, je pense que ça va être très, très difficile en 2024. Les élections, l'apurement des listes électorales. Donc, moi, j'en doute. Je pense qu'on va assister à un glissement progressif jusqu'à ce que tout soit prêt et les élections auront lieu. Mais je ne suis pas sûr que ce soit à l'horizon 2024.
Francis Patindé, merci.